Nous avons commencé il y a quelques semaines une réflexion ensemble que j'aimerais poursuivre aujourd'hui avec vous sur l'esprit de la prophétie. Cette expression qui est employée dans les Écritures et qui nous amène à réfléchir encore aujourd'hui sur ce que le Seigneur fait pour nous, de manière à ce que nous puissions marcher dans ses voies et comprendre son plan pour nous sauver. J'aimerais vous inviter à prier. Notre Dieu, notre Père, devant ta parole aujourd'hui, donne-nous de la comprendre, donne-nous de la recevoir avec le cœur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. On entendait des cris, des pleurs, des lamentations, alors que ce cortège funèbre sortait du village et descendait le chemin tortueux qui allait jusqu'au bas de la vallée où se trouvait le cimetière. Sur le haut de la colline se trouvait ce village, un village de petites maisons, serrées les unes contre les autres, blanchies à la chaux. Et ce cortège de tristesse sortait par la porte de la ville et descendait le chemin qui conduisait à l'endroit le plus bas, le cimetière. On y conduisait, nous dit l'Évangile, un jeune homme. Et c'est ce qui rendait précisément ce cortège encore plus triste, parce qu'il était parti beaucoup trop tôt. De plus, il était le fils unique de sa maman. Sa maman était en pleurs parce que ce n'est pas la première fois qu'elle faisait ce chemin-là. Elle y avait accompagné quelque temps avant son mari qui avait précédé son fils dans le chemin de la mort. Cette maman éplorée suivait ce cortège. Des amis portaient le corps sur un brancard. Et puis, la plupart des gens du village suivaient. Ils le connaissaient tous, ce jeune homme. De quoi est-il mort? Nous n'avons aucune idée. Un accident? Une maladie? En tout cas, cette mère n'avait plus son fils unique, elle n'avait plus son mari, elle était veuve et n'avait par conséquent plus aucun revenu, plus aucun statut. Une femme sans défense, elle était dans une situation catastrophique en réalité, considérant la société dans laquelle elle était. Et au fur et à mesure que ce cortège descendait à pas lents la colline, on a vu monter un autre cortège. Un cortège qui répandait une ambiance tout à fait différente parce qu'on entendait des rires, on entendait des cris de joie. Il y avait de la joie qui rayonnait de ce groupe de gens qui montaient et qui approchaient du village. Au milieu d'eux se trouvait Jésus qui parlait aux uns, qui parlait aux autres. Les uns chantaient, les autres riaient. Et au fur et à mesure que ces deux foules se sont rapprochées, on a senti comme un malaise parce que l'ambiance de l'une et l'ambiance de l'autre étaient totalement opposées, jusqu'à ce que ces deux foules se rejoignent et que le malaise fasse taire tout le monde. Ce malaise a fait taire les cris de joie et il a fait taire les pleurs pour un instant. Malheureusement, les pleurs et la tristesse a eu le dessus et le cortège a continué sa descente vers le cimetière. Et puis, ces hommes qui portaient le corps de ce jeune homme sont passés devant Jésus. Ce groupe de gens qui étaient avec lui dans la joie, dans l'allégresse, dans le chant, s'étaient tus maintenant. Et ils ont regardé ce cortège funèbre passer devant eux. Et au moment où la veuve est passée devant Jésus, Jésus lui a dit « Ne pleure pas ». Elle a tourné la tête, elle a regardé qui pouvait dire une chose pareille à ce moment-là. Et son regard a croisé le regard de cet homme à allure majestueuse qu'était Jésus. « Ne pleure pas », c'est facile à dire. Et le texte nous dit que Jésus a été ému de compassion pour cette femme. Et je peux le comprendre parce que dans l'esprit de Jésus à ce moment-là a passé une image. C'est que cette femme est maintenant dans la situation où sera sa maman dans quelque temps. Une veuve qui perd son fils unique. Il a pensé à sa maman. Il a vu là sa maman quelque temps plus tard. Et il a été ému de compassion pour elle. Ne pleure pas. Facile à dire. Jésus s'est approché de ceux qui portaient ce corps et il l'a touché. Il lui a dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le texte nous dit que ce jeune homme s'est assis, il s'est débarrassé de ce linceul qui l'emballait et il s'est mis à parler. Le texte ne nous dit pas ce qu'il a dit. Alors je vous laisse imaginer la surprise de ce jeune homme assis en voyant autour de lui des gens stupéfaits, certains pleurent. Il se voit porté par ses amis d'une façon qu'il connaît déjà parce que quelque temps avant il a vu son père descendre au cimetière de cette manière-là. Et il comprend qu'il était mort et que maintenant il est de nouveau vivant. Et vous pouvez imaginer la joie, la stupéfaction, les émotions extrêmement bouleversées de cette maman qui prend son fils, qui l'embrasse parce qu'il est vivant de nouveau. Et finalement, de ces deux foules, en fin de compte, c'est la foule joyeuse, heureuse qui aura la victoire parce qu'ils vont non pas descendre au cimetière, mais remonter à la ville dans un seul groupe de gens qui louent le Seigneur de ce qui est arrivé. Et les gens disent, nous est-il dit dans l'évangile de Luc au chapitre 7, les gens disent, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Un grand prophète apparut parmi nous. Cette situation qui nous est décrite dans l'évangile me fait penser à bien des égards à ma situation, à notre situation. Nous faisons partie du peuple de Dieu, mais nous pouvons être morts quand même tout en faisant partie du peuple de Dieu. Combien d'entre nous sont morts ou presque spirituellement à cause des épreuves répétées, à cause de la maladie spirituelle, à cause de tous les combats à livrer, ou bien tout simplement à cause des habitudes traînées pendant longtemps, des routines, des déceptions nombreuses, des prières que l'on aurait voulu entendre exaucer et qui ne l'ont pas été. Certains d'entre nous sont finalement des moribonds spirituels, portés par les autres de l'Église parce qu'ils sont morts ou presque. Et je ressens le besoin que Jésus passe à nouveau et qu'il nous touche à nouveau et qu'il nous rende la vie et qu'il nous dise « Lève-toi, jeune homme, jeune femme, lève-toi, grand-maman, grand-papa, lève-toi, père, mère, lève-toi, reviens à la vie. » Jésus nous invite à revenir à la vie, à vivre l'expérience d'un réveil véritable en profondeur. Et Jésus, je crois, passe encore aujourd'hui prêt à toucher ceux qui sont prêts à recevoir de sa part ce contact particulier qui les fait revivre. Nous avons besoin, je crois, d'une expérience comme celle que Ézéchiel a vue en vision. Regardez dans le livre du prophète Ézéchiel avec moi au chapitre 47. Ézéchiel chapitre 47. Dans une vision ici, Ézéchiel rapporte ce qu'il voit et il dit au verset 9, Ézéchiel 47 verset 9, « Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra. » Partout où parviendra le torrent. Nous avons besoin que ce torrent qui est Jésus passe et nous touche les uns les autres et nous transmette à nouveau cette vie, cette résurrection finalement spirituelle, ce réveil spirituel. Mais vous avez remarqué, les gens de cette ville de Naïn, où Jésus a accompli ce miracle de la résurrection, ont dit « un grand prophète est venu parmi nous ». Et c'est la raison pour laquelle je regarde avec vous ce texte aujourd'hui. Un grand prophète est venu parmi nous. Ils ont attribué à ce prophète le miracle qu'ils ont vu sous leurs yeux. Dans notre esprit, un prophète, c'est d'abord quelqu'un qui annonce l'avenir. Dans l'esprit d'ailleurs de nos contemporains, c'est la même chose. Un prophète, c'est quelqu'un qui annonce l'avenir. Jésus, d'ailleurs, était confronté au même problème. Les gens de son temps avaient une certaine conception de ce que le Messie devait être et de ce qu'il devait faire. Et vous avez sûrement été surpris, comme moi, de lire ce texte, par exemple, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 16, où il est dit « Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. » Mais enfin, il est venu pour ça. Alors pourquoi demande-t-il à ses disciples de ne rien dire? C'est qu'en fait, les gens qui l'entouraient avaient une certaine conception de ce que le Messie devait être et qui n'avait rien à voir avec ce que Jésus était venu faire. Jésus ne voulait pas que les gens soient confus à propos de son rôle. Jésus ne voulait pas que l'on considère qu'il était venu pour remplir la mission qu'ils espéraient le voir accomplir. Il avait en fait une autre mission. Et c'est la raison pour laquelle il disait « Ne dites pas que je suis le Messie parce qu'eux ne savent pas ce que c'est que le vrai Messie. » Les prophètes ont ce même problème. J'entends les vrais prophètes de Dieu, ceux que Dieu a appelés, ceux à qui Dieu a donné un message à transmettre à son peuple. Ceux-là ont le même problème parce qu'un prophète, c'est dans l'esprit des gens quelqu'un qui annonce l'avenir. Un prophète contemporain, un vrai prophète contemporain, prophète de Dieu, rappelle à quel point ce problème était aussi actuel. Ce personnage écrit « Prétendre que je suis prophète est quelque chose que je n'ai jamais fait. Si certains veulent m'appeler de cette manière, je ne leur en tiendrai pas rigueur. Mais mon ministère s'étend à tellement de domaines différents que je ne peux me voir autrement que comme un messager envoyé par le Seigneur pour apporter un message à son peuple et accomplir tout ce qu'il m'indiquera. » Voilà encore le problème auquel les prophètes sont confrontés. Leur ministère est immensément large. Leur ministère n'est pas d'annoncer l'avenir pour répondre à la curiosité des uns et des autres. Leur ministère, c'est être d'un messager du Seigneur, non pas des diseurs de bonne aventure. Ainsi, la parole de Dieu nous explique quel est le rôle du prophète. Que nous dit un prophète? Le message que le prophète transmet de la part de Dieu à son peuple pourrait se résumer en quatre points. Et pour les illustrer, j'aimerais prendre un texte qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe, et qui est assez facile parce que ces quatre étapes du message du prophète se trouvent résumées dans quelques versets seulement dans le premier chapitre. Nous pourrions prendre d'autres exemples dans les Écritures pour voir le message des prophètes en quatre étapes, mais dans certains endroits, ces étapes s'étendent sur plusieurs chapitres. Ici, dans Ésaïe, dans ce cas particulier, nous trouvons ces quatre dimensions du message du prophète en quelques versets seulement. Regardez avec moi dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 1er. Au verset 2, il est dit « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont rebellés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. » Et un peu plus loin, au verset 5, « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes? La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. » Cette première étape, c'est un bilan de la situation du peuple de Dieu. Dans quel état le peuple est-il? Il ne se rend même pas compte dans quel état il est. Et Dieu lui sert de miroir et lui renvoie une image de ce qu'est ce peuple. Dans ce texte dramatique, Dieu est en train de dire « Les animaux domestiques connaissent leur maître. Ils savent où est leur étable. Mon peuple n'est même pas capable de faire ce que les bêtes font. Mon peuple ne sait même pas qui est son Dieu. » Dieu se lamente en disant « Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que le corps entier est malade. Depuis le sommet de la tête jusqu'au bout des pieds, rien n'est en bon état. » Dieu fait le bilan de la situation de son peuple et leur dit « Voilà dans quel état vous êtes. » C'est la première étape du message du prophète. La deuxième étape, Nous la trouvons dans le livre du prophète Ésaïe, dans le même chapitre, au verset 16, où il est dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Dans la deuxième étape de son message, le prophète transmet au peuple de la part de Dieu une invitation à revenir à lui. « Venez et plaidons ensemble. » Dieu leur promet de les pardonner. Dieu promet qu'il est prêt à recommencer avec eux. « Venez et plaidons ensemble. » Cette deuxième partie, c'est l'invitation. Dieu invite son peuple à revenir à lui. Il s'en est écarté. « Reviens, reviens à moi. Parlons ensemble. » Dieu est prêt à discuter avec son peuple. Il veut rétablir la communication. La troisième étape dans le message du prophète, nous le voyons au verset 19, où il est dit « Si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous écoutez, si vous revenez, alors à ce moment-là, les bénédictions seront déversées sur vous. » C'est là que commence le message du prophète qui concerne l'avenir. Et vous remarquez, c'est conditionnel. Conditionnel du retour du peuple à Dieu. Si vous revenez, à ce moment-là, vous me donnerez la possibilité de vous bénir au-delà de la mesure. C'est la troisième étape dans le message du prophète qui annonce les bénédictions qui seront liées au retour à Dieu, les bénédictions liées au réveil spirituel. Mais vient ensuite la quatrième étape dans le message du prophète, c'est au verset 20. « Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » C'est la quatrième étape. Si vous résistez, et encore une fois ici la condition apparaît, à ce moment-là, l'avenir sera sombre pour vous, parce que vous ne m'aurez pas donné la possibilité de vous bénir. Par conséquent, c'est le malheur qui va vous frapper. Vous remarquez, les deux dernières parties de ce message prophétique concernent l'avenir et sont conditionnées par la réponse que le peuple va donner. Si vous revenez, alors Dieu pourra vous bénir. Vous lui en donnerez la permission. Mais si vous ne revenez pas, le malheur vous atteindra parce que vous avez mis le Seigneur dehors. Et effectivement, ces deux parties-là sont tournées vers l'avenir et annonce au peuple quelles seront les conséquences d'une réponse et les conséquences de l'autre. Voilà les quatre parties du message prophétique. Voyez la situation, regardez où vous en êtes. Revenez à Dieu. Si vous revenez, voilà comment il pourra vous bénir. Si vous ne revenez pas, Dieu se retirera et vous aurez à faire face aux conséquences. Ainsi le prophète finalement n'est pas là pour annoncer l'avenir, il est là pour appeler le peuple à revenir à Dieu. Le message du prophète, c'est un message de réveil et un message de réforme. C'est une interpellation à revenir à lui. Finalement, on comprend pourquoi les gens de ce village de Naïn ont vu dans la résurrection qui était pratiquée devant eux l'œuvre d'un prophète. La résurrection, qu'elle soit physique ou spirituelle. Mais cette fois-là, c'était plus qu'un prophète. C'était la parole créatrice elle-même qui a dit à ce jeune homme, « Lève-toi. » Mais lorsque Jésus n'est pas là, comment est-ce que Jésus s'y prend pour redonner la vie à son peuple? Eh bien, la parole de Dieu nous le dit. Il utilise l'esprit de la prophétie, et il le donne à ses serviteurs, les prophètes. C'est la raison pour laquelle les prophètes ont une importance essentielle dans les Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Rejeter le prophète, c'est rejeter celui qui l'a envoyé. Rejeter son message, c'est rejeter la parole de Dieu. On comprend que Dieu ait dit à son peuple, « Pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse ?» Le message des prophètes est un message de résurrection, un message de réveil, un message qui finalement correspond tout à fait à ce dont l'église de Laodicée a besoin, parce qu'en lisant la lettre que Jésus adresse à l'église de Laodicée, on se rend compte que c'est une église qui s'est endormie sur ses lauriers. Elle croit tout avoir, mais elle dort. Le message du prophète, le message de résurrection, le message de réveil est par conséquent ce dont l'église d'aujourd'hui a besoin, ce dont nous avons besoin. Mais j'aimerais regarder avec vous comment Dieu s'y prend pour nous toucher aujourd'hui, pour nous réveiller aujourd'hui. Le prophète Ézéchiel nous donne des indications sur la manière par laquelle Dieu touche et réveille son peuple d'aujourd'hui. Dans le livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, se trouve une vision que j'aimerais regarder avec vous un peu plus en détail ce matin. Il y a là 7 étapes par lesquelles Dieu veut ressusciter son peuple. Et Ézéchiel nous fait comprendre qu'il en est l'instrument, et il nous fait comprendre par quels moyens Dieu va ressusciter son peuple. Ézéchiel chapitre 37, j'aimerais regarder cette vision avec vous. Au verset 1er, il est dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. » La première étape, c'est que Dieu va montrer à son prophète quelle est la situation réelle du peuple. Dans le cas particulier, ils sont morts. C'est un tas d'ossements secs, et ils sont nombreux. Pensez-vous que les morts spirituels sont nombreux dans l'Église? C'est en tout cas l'image qui est donnée ici à Ézéchiel, dans son temps. Dieu lui fait voir la situation de son peuple. Ils sont morts. Ils sont représentés par des ossements secs. La deuxième étape de ce processus arrive au verset 3, où il est dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Dans cette deuxième étape, Dieu veut impliquer son prophète dans le processus de résurrection qu'il veut voir accomplir dans son peuple. Et il demande au prophète, penses-tu qu'ils vont pouvoir revivre? Et le prophète, à vue humaine, se pose la question. Mais c'est Dieu qui lui parle et lui répond, « Écoute, Seigneur, c'est toi qui sais. » Mais vous voyez là Dieu qui veut impliquer son prophète dans la résurrection de son peuple. Il veut l'emmener avec lui dans cette entreprise de réveil. La troisième étape vient au verset 4, où il est dit, « Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. » L'étape suivante, c'est que Dieu donne à son prophète une parole pour relever son peuple. Dieu ne s'adresse pas à son peuple directement. Il dit à son prophète, « Va et donne-leur ma parole. » Et ma parole va commencer l'œuvre de restauration. Des nerfs, de la chair, de la peau. C'est la troisième étape dans le processus de restauration. Et la quatrième étape vient au verset 7, où il est dit, « Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. » Le prophète, maintenant, se tourne vers le peuple et transmet cette parole qu'il a reçue. Et il dit, Verset 7 encore, « Comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. » Les corps sont reconstitués. Dieu, par sa parole, a déjà commencé l'œuvre de restauration, mais elle n'est pas complète. Alors Dieu continue. Et c'est la cinquième étape que l'on a en fait au verset 11. C'est une parabole, c'est une vision, mais Dieu entend ces morts qui parlent. Verset 11, il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » Dans cet état-là, ayant déjà reçu la parole de Dieu, ils reconnaissent qu'ils sont morts. Ils reconnaissent leurs besoins et ils disent à Dieu, « Seigneur, nous sommes secs, nous avons perdu notre espérance, notre foi est affaiblie, viens au secours, Seigneur. » C'est à ce moment-là que le Seigneur peut passer à l'étape suivante, c'est l'étape numéro 6 qui est indiquée au verset 9, où il est dit, « L'Éternel me dit, prophétise et parle à l'Esprit. » Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Dieu ne va pas parler directement à son peuple, il dit au prophète, ordonne à l'Esprit de rentrer dans mon peuple et de lui donner vie. Et l'étape suivante, la septième, est indiquée ici au verset 10, où le prophète dit, je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Sept étapes par lesquelles le Seigneur veut rendre la vie à son peuple desséché. Le prophète en est l'instrument, et vous l'avez remarqué, l'Esprit en est le moyen. C'est par l'action du Saint-Esprit en nous que Dieu veut rendre à son peuple cette vie intérieure, spirituelle, nécessaire à notre marche chrétienne. C'est ainsi que, bien qu'absent, Jésus passe encore dans son peuple et touche ceux qui sont morts et leur dit « Lève-toi, 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 reprends vie. » Le prophète est l'instrument. Et c'est dire à quel point l'esprit de la prophétie est important pour nous parce que c'est le moyen par lequel le Seigneur veut nous rendre la vie. Par ce moyen-là, nous pouvons recevoir l'invitation à demander le Saint-Esprit. C'est ainsi que le Seigneur redonne vie aujourd'hui à ses enfants moribonds spirituellement. D'ailleurs, un prophète moderne a écrit ceci. Le plus grand et le plus urgent de nos besoins, c'est celui d'un réveil de la véritable piété parmi nous. Notre premier souci devrait être de le rechercher. Un réveil ne peut être conçu que comme une réponse à la prière. Aussi longtemps que l'on est dénué de l'Esprit Saint, on ne peut apprécier la prédication de la parole. Notre plus grand besoin, celui de la résurrection, justement. Celui d'aller chercher dans l'esprit de la prophétie les outils dont nous avons besoin et de les demander à Dieu qu'il nous les donne, de lui donner la permission d'opérer en nous cette résurrection nécessaire. Maintenant, il y a trois fruits principaux au réveil et à la résurrection. Ce sont des fruits très simples, ce sont en réalité toujours les mêmes, mais dans une intensité particulière. Lorsqu'un réveil se produit, il y a une intensification de la prière, une intensification de l'étude de la parole de Dieu et une intensification du témoignage. Regardez simplement avec moi trois passages qui en parlent dans les Écritures rapidement. Dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 50. Ésaïe chapitre 50. Ésaïe chapitre 50, au milieu du verset 4, il est écrit « Le Seigneur, l'Éternel, éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, je n'ai point résisté. La prière, l'écoute, la conversation avec Dieu, c'est l'intensification de cette vie de prière qui est un des fruits du réveil spirituel. Et puis, il y a aussi l'intensification de l'étude de la parole de Dieu. Dans le psaume 119, au verset 147, il est écrit ceci. Psaume 119, verset 147. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Le sacrifice du temps nécessaire pour l'étude de la parole de Dieu. C'est cet élément-là aussi qui est un fruit du réveil, l'intensification de l'étude de la parole de Dieu. Quand avez-vous pour la dernière fois pris le temps d'étudier en profondeur un livre, par exemple, de la parole de Dieu? Et puis, il y a une autre intensification comme fruit de ce réveil. Lisez-le par exemple avec moi dans le psaume 51. Ce psaume est un psaume particulier, un psaume de repentance après l'expérience dramatique que David a vécue. Un psaume où il exprime sa repentance, sa consécration et où David vit véritablement un réveil spirituel. Regardez dans le psaume 51 ce qui est écrit à partir du verset 12, où il est dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. En demandant au Seigneur de lui donner son Esprit Saint, de créer en lui un cœur pur, de le réveiller, de le ressusciter, la conséquence pour lui est simple. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Une intensification du témoignage. Les trois fruits du réveil sont fort simples. Une vie de prière renouvelée, une vie d'étude de la parole renouvelée, une vie de témoignage renouvelée. Le Seigneur aujourd'hui encore parle par ses prophètes. Est-ce que nous écoutons? Le Seigneur aussi parle aujourd'hui par l'esprit de la prophétie. Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous écoutons plus que les autres écoutent? Conscient que Dieu aujourd'hui veut utiliser l'esprit de la prophétie pour nous toucher, pour nous ressusciter, pour nous donner la grâce de vivre un réveil spirituel, celui dont nous avons besoin pour nous préparer au retour de Jésus. C'est la raison pour laquelle Dieu s'adresse à son peuple et dit « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Amen.